France Musique.
We annually spend on military security alone more than the net income of all United States corporations.
Une guerre froide, couleur jazz. En 1945, les États-Unis et l'URSS sont alliés contre l'Allemagne nazie. Pourtant, très rapidement, à la suite de la capitulation allemande le 8 mai 1945, les relations se tendent entre les deux grands. Si aucun affrontement direct n'a lieu du fait de l'équilibre de la terreur, par crainte d'une guerre nucléaire, les deux superpuissances luttent sur des territoires périphériques, en Europe ou dans le tiers-monde. Ce qui est appelé la guerre froide s'amorce dès 1947 et ne se termine qu'en 1991, à la suite de l'effondrement de l'URSS. Qui dit guerre froide pense course aux armements, rideaux de fer, dissuasion nucléaire. Mais la lutte que se mènent les deux blocs est surtout idéologique et psychologique. La guerre froide est aussi et peut-être avant tout une guerre d'images, d'idées, de propagande, de désinformation et de pression diplomatique. En l'absence de guerre ouverte et directe entre les États-Unis et l'URSS, l'information et les médias deviennent un enjeu décisif permettant de relayer des messages et de véhiculer une idéologie. Ainsi, durant la guerre froide, Américains et Soviétiques usent largement de la propagande. Les médias deviennent insidieusement le porte-parole des idéologies politiques, une véritable arme de guerre, celle de former l'opinion. Aux États-Unis, le soft power, par la séduction et la manipulation, s'impose comme concept clé des relations internationales, une technique à finalité stratégique. Aussi, pendant la guerre froide, la CIA conçoit un plan de guerre culturel et conduit une politique de subvention à des journaux, des livres, des conférences, des manifestations artistiques. Tout cela est censé sauver l'intelligentsia du giron du communisme et offrir une alternative culturelle, politique et morale aux populations de l'Est ou des pays tiers. Pour les États-Unis, la guerre froide va rapidement passer d'une politique d'endiguement à une véritable croisade pour la liberté. Sous Eisenhower, élu président en 1953, la culture devient un moyen d'étendre le gospel de la démocratie américaine à l'étranger. Il s'agit désormais non plus seulement de propagande, mais de véritable guerre idéologique. Le violoniste Isaac Stern, la troupe de chanteurs noirs de la comédie musicale Porgy and Bess, partent en tournée où ils sont acclamés partout, y compris en URSS. En envoyant un grand musicien russe exilé ou la première grande comédie musicale noire, le département d'État propose une vision sélective de l'Amérique, nation de la diversité culturelle, de la liberté artistique et de la fin du racisme. Pour les États-Unis, réussir à construire une image de tolérance et de liberté est un vrai défi au début des années 50. Dans les années 50, le jazz atteint son apogée aux États-Unis. Il s'est développé et il est désormais incarné par de nombreuses personnalités. Duke Ellington, Louis Armstrong et Dizzy Gillespie notamment. L'ère du bebop se développe depuis 1942. De nouveaux accords, des mélodies qui se découpent peu à peu plus librement, des traits de virtuosité pour les solistes. Puis, les batteurs qui s'intègrent plus profondément dans la mélodie, introduisent des ponctuations qui la troublent et la relancent à la fois. Mais le climat du bebop traduit un arrière-plan d'inquiétude, celle de tout créateur interrogeant son art, mais aussi celle du noir, à qui la guerre a appris le monde et qui, ayant combattu aux côtés des blancs, voit pourtant qu'il demeure une sorte de colonisé de l'intérieur. Le booper le plus important est le saxophoniste alto Charlie Parker. Il élabore un langage sur lequel le jazz vivra durant 15 ans. Quant au trompettiste Dizzy Gillespie, il est le second porte-drapeau du mouvement. C'est lui qui est convaincu par Adam Powell, membre du Congrès en 1955, d'inaugurer les premières tournées de jazz dans le monde. Le contexte intérieur des États-Unis n'est pas favorable. La ségrégation est encore omniprésente. Le 1er décembre 1955 a eu lieu l'événement fondateur du bus de l'Alabama, quand Rosa Parks refuse de quitter un siège réservé aux Blancs. La médiatisation de cet incident et les mouvements de protestation qui le suivent sapent l'image des États-Unis, notamment auprès des pays africains. L'idée de débloquer un budget gouvernemental pour que se produisent à l'étranger des musiciens noirs entraîne des réticences de la part des sénateurs les plus conservateurs. Qu'ils voient et qu'ils écoutent nos jazz bands, déclare Adam Powell. Ces tournées battront en brèche l'idée soviétique que l'Amérique n'a pas de culture propre. Elles adouciront l'image du racisme américain. Nombreuses sont les formations de jazz où les musiciens noirs et blancs jouent ensemble. Ainsi naît le programme Ambassadeur du Jazz. À partir de 1956, Dizzy Gillespie et son groupe entament une tournée de 10 semaines qui les conduit en Iran, au Pakistan, en Syrie, en Turquie, en Grèce et en Yougoslavie. Puis en Europe de l'Est. Tous les soirs, ils sont ovationnés debout. L'un des paradoxes de cette diplomatie par le jazz est que les musiciens découvrent dans les pays sous le joug totalitaire une misère indescriptible. Ils montrent alors une solidarité que les officiels américains n'avaient pas anticipée. Solidarité qui semble naturelle à ces artistes noirs qui vivent, quant à eux, une véritable misère sociale aux États-Unis. Ainsi, à Karachi, Dizzy Gillespie s'aperçoit que les spectateurs appartiennent à la bourgeoisie aisée et ont payé très cher leurs billets. Ils refusent de jouer jusqu'à ce que les grilles soient ouvertes et que tous puissent assister au concert. « Je suis venu ici pour jouer pour tout le monde, pas seulement pour l'élite », déclare-t-il. Louis Armstrong décide lui aussi d'effectuer une tournée hors des États-Unis, précisément au Ghana, en mai 1956. Contrairement à Dizzy Gillespie, c'est de son propre chef qu'Armstrong sera en Afrique, s'intégrant sans même le savoir dans une stratégie de diplomatie publique. Prenant soin d'annuler ses tournées nationales à son insu pour le pousser vers une promotion internationale, le gouvernement force son record, 160 jours de concerts à l'étranger. Mais parfois, l'arme musicale se retourne contre les politiques. Le Ghana est alors en plein processus d'émancipation de la tutelle britannique depuis les élections de 1954. En pleine guerre froide, le pays, qui pourtant n'en a pas fini avec la ségrégation, envoie à l'extérieur, et singulièrement en Afrique, un tout autre message avec Armstrong en ambassadeur. Alors il chante « Je ne peux cacher ce qu'on voit sur ma bobine. Je suis si triste. Ma vie n'est qu'épine. Mon cœur est déchiré. Pourquoi suis-je né? Qu'est-ce que j'ai fait pour être aussi black and blue ?» Pendant leur tournée, les jazzmen ne font pas que jouer. Ils écoutent aussi les musiciens locaux. En même temps qu'ils donnent un goût de l'Amérique au monde, ils rapportent un goût du monde au pays. Dave Brubeck et son quartet sont envoyés pour une vaste tournée en 1958. RDA, Pologne, Turquie, Afghanistan, Pakistan, Inde, Ceylan, Iran et Irak. En se promenant un matin dans Istanbul, Brubeck entend un groupe de musiciens de rue jouant sur un rythme exotique, rapide et syncopé. Plus tard dans la journée, il se rend à une interview à la radio locale. La station avait son propre orchestre symphonique, comme bien d'autres radios de l'époque. Quand Brubeck arrive, les musiciens sont en pause et il leur parle du rythme qu'il a entendu dans la rue. Il leur siffle la mélodie et les musiciens la reprennent en l'ornant et en improvisant dessus. C'était une chanson traditionnelle turque, bien connue. Quand Brubeck rentre aux États-Unis, il veut faire un album en reprenant ce rythme nouveau découvert à Istanbul. Brubeck et son quartet enregistrent alors à New York en 3 sessions, ce qui deviendra l'un des plus grands succès de l'histoire du jazz, Time Out. La musique aujourd'hui encore porte les messages des politiques. Diplomatie, propagande, les artistes peuvent choisir. Les hommes politiques aussi.
The little girl who goes to the public school in Dillon are the same as the dreams of boy who learns on the streets of L.A.
We will remember that there's something happening in America.
That we are not as divided as our politics suggest. That
we are one people.
That we are one nation. And together we will begin the next great chapter in the American story. With 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Yes, we can.
can, yes, we 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 can.
À réécouter sur francemusique.fr.